Bonjour chers amis, nous voici rassemblés ce matin pour préparer notre émission « L'heure du carillon », une émission mensuelle proposée par des chrétiens de la paroisse de Saint-Émilie du Villefranchois. Nous sommes sur CFM Radio 90.2. Puis ce matin, quand nous avions parlé du thème de cette émission, on ne savait pas quelle météo nous serait offerte. Et ce matin, il fait très beau et on veut parler des vacances. Alors ça tombe très bien, on est déjà dans l'ambiance avec ce beau soleil. Vacances, diversité, spiritualité. On va aborder ce thème parce que l'été nous est donné pour vivre autrement, que nous puissions partir ou que nous restions. C'est un temps autre pour se ressourcer, pour refaire le plein d'énergie, pour profiter de la nature, des amis, pour profiter du petit rosé et du barbecue, pour prendre le temps de vivre autrement, de nous enlever de ce brouhaha quotidien fait de bruit de moteur et frais de ragots souvent et de rumeurs. On est là pour vivre autre chose, vivre autrement. Et autour de cette table, nous avons invité quelques amis. En plus des animateurs habituels que vous connaissez, nous avons invité quelques amis qui maintenant vont se présenter.
Mona, religieuse de la Sainte Famille, ici à Villefranche.
Georges Ginisti. Je suis président de l'association Vacances et Familles, dont le siège est à Villefranche-le-Rouergue.
Jean-Pierre Manger, président de l'association du Barouer vers Compostelle, les Amis de Saint-Jacques, dans notre secteur, sur la voie de Conques-Toulouse.
Voilà, alors ça, ce sont nos invités exceptionnels. Et puis autour de cette table, vos animateurs habituels.
Bernard Lauriac.
Michel Montbresseau.
Et Émilie Martin.
Et moi donc, Didier, prêtre à Villeneuve, dans le Villefranchois aussi. Donc nous commençons cette émission en regardant quelles diverses formes peuvent prendre nos vacances, ce temps, comme je disais, qui est différent. Et c'est pourquoi on a appelé cette émission « Diversité, spiritualité, temps de vacances ». Eh bien, pour commencer, nous pourrions écouter par exemple Mona qui nous parle un petit peu de la spiritualité possible pendant les vacances. Ah, je t'ai fait signe, Mona, maintenant t'es obligée de parler.
Il ne fallait pas commencer par moi. Bon, alors parler de comment, c'est peut-être pas pendant mes vacances que je vais faire ma retraite annuelle, mais en tous les cas, c'est pendant l'année. Et quand j'étais au travail, ça m'arrivait un peu plus souvent, donc c'était pendant mes vacances. Alors, je vais dans un monastère bénédictin, soit à Encalcate, soit à Tournai. Là, je coupe avec ma vie quotidienne, bien sûr, et j'essaie de prier, de profiter de la prière des moines, donc un climat de prière, de silence, de solitude, qui me rejoint très fort dans ce que je suis profondément. Un être solitaire et solidaire, je dirais. Donc je coupe pour ce qui est de la solidarité de tous les jours, du quotidien, pour me retrouver face à Dieu, face aux autres et dans mon fort intérieur. Voilà, je ne sais pas si je dis plus que ça pour le moment.
Bon, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Donc voilà. On commence assez fort parce que c'est vrai que pendant les vacances, on pourrait aussi estimer qu'on a tout un tas de choses à oublier et peut-être pour nous chrétiens un peu oublier Dieu, alors que c'est une occasion aussi et surtout de rencontrer Dieu autrement, en rencontrant les autres, en rencontrant la nature, parce qu'on a tous besoin de soleil, de beauté, on a besoin de mer, de sable chaud et d'herbes fraîches, on a besoin de tout cela pour vivre. Et donc, si vous voulez, pour se mettre en route, on écoute un petit morceau de musique, voilà, une rivière qui coule et qui nous amène au bord de la mer.
Thank you.
la mer, mais peut-être que d'abord nous allons écouter Georges qui va nous parler justement de l'association dont il s'occupe, du but et de la manière de vivre les vacances au sein d'une association. Je te laisse la parole, Georges.
Alors, je suis là un peu dans un cadre particulier, puisque moi je vais vous parler des vacances des autres, de mon engagement pour les vacances des autres. Et nous sommes une association Vacances et Familles. Nous nous définissons comme laïcs et nous avons comme valeur de base la laïcité. Donc la spiritualité, si j'ai accepté l'invitation de Bernard pour être là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, nous sommes dans une confrontation à la spiritualité. Nous sommes dans une confrontation religieuse par le fait que nous accueillons des familles d'origine islamique et qui le revendiquent dans leur séjour. Hein. Donc nous avons des débats en interne de l'association et nous avons des débats avec des familles parce que le travail des bénévoles, puisque nous sommes une association de bénévoles au sein de Vacances et Familles, c'est d'abord un bien culturel immense et nous avons 4 ou 5 heures pour le vivre et puis après il faut faire 15 jours. On travaille ensemble pendant 15 jours. Voilà. Donc c'est une expérience unique, particulière. Et l'objectif, c'est d'accorder du temps à des familles qui ne partent jamais en vacances ou qui ne sont pas parties depuis 20 ans, des familles à des revenus très modestes. Nous accueillons des familles. Alors au départ, c'était... tout à l'heure, vous avez fait une référence à la nature. C'était parce qu'il était considéré que la nature, c'était le bien pour les gens qui vivent en ville. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est le bien pour les gens qui vivent en ville, c'est la mer. Et s'ils n'ont pas la mer, ce qui est bien, c'est qu'ils habitent en ville, même en vacances. Voilà. Après, je vous expliquerai un peu plus ce que nous faisons. Mais je crois que le sujet, c'est plus le bien culturel que la spiritualité. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que la culture est un élément aussi, à mon sens, de la spiritualité et les choses se rejoignent. Alors, chacun avec sa particularité, chacun avec ses engagements, mais il est sûr que les vacances, ce que je souhaite, enfin, et ce dont on a parlé entre nous, c'est que c'est un temps autre pour vivre autrement et autre chose. Bernard, tu as écrit, je sais, un petit papier pour le prochain journal paroissial et tu vas nous dire deux, trois choses sur ce que tu as écrit.
Oui, moi j'ai cherché toutes les voies qu'on peut adopter pendant les vacances. Alors, tu l'as déjà dit, il y a le repos, la détente, la sieste au bord de l'eau, refaire les forces de travail, en quelque sorte, hein, quand on est vraiment crevé par des mois d'activité, on a besoin de repos. On peut, bien sûr, admirer les paysages ou le patrimoine en faisant un petit circuit pour voir des églises romanes, pour voir des châteaux Renaissance ou des châteaux forts, peu importe. On peut aller aussi, moi c'est ma tendance, aller voir des festivals. Festivals de danse, de théâtre, de chant, d'art du spectacle, soit dans des villes cultes comme La Rochelle ou Avignon, soit dans des petits villages où ils font des choses extraordinaires. Je vais souvent, moi, à Grignan, qui est un petit village de 2000 habitants. On peut aussi marcher, parce que la marche, moi, j'ai fait une partie du chemin de Compostelle, et ça permet de revenir sur sa vie, de méditer, de faire le point où c'est qu'on en est, et de rencontrer aussi des gens qui cherchent un peu du sens à leur parcours. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires sur le chemin de Compostelle. Et puis, il y a aussi, comme l'a dit la sœur Mona, des sessions plutôt sur la prière, mais aussi des sessions de formation. Moi, par exemple, j'ai envie d'aller cette année aux Assises de l'écologie, où il y a Nicolas Hulot, Pierre Rabhi et Jean-Marie Pelt. Ça se fait à Saint-Étienne fin août et c'est organisé par l'hebdomadaire La Vie. Et puis, je conseillerais à mes amis à Émilie et à Michel, il y a une session médias et vérité qui regroupe des politiques, des acteurs associatifs. C'est une sorte d'université d'été dans le Var fin août. Bon, il y en a qui se mettent au service des autres, tout simplement. Je pense au rassemblement des jeunes à Thésée. Je pense à côté de chez nous, à l'abbaye de Marcillac-sur-Célé, il y a des jeunes qui font la restauration de l'abbaye. Bon, voilà. On peut aussi mélanger toutes les formes que j'ai énumérées, mais j'en dirai pas plus.
Voilà. Alors, Émilie, tu veux parler?
Oui, merci Bernard pour ta recommandation, mais fin août, je serai à Lourdes. Voilà, donc, avec les malades de l'hospitalité avéronnaise. Et il y aura Michel également. Donc, ce sera pour une prochaine année.
Vous voyez, quand on parle de vacances, on est dans la diversité, mais la diversité qui est la nature même de l'homme, hein, parce que nous sommes tous différents de cœur et de visage, mais tous nous aspirons à un mieux, à un plus, à un meilleur pour chacun et pour nous-mêmes et pour les autres. Alors c'est la chanson que nous avons choisie, chacun sa route, chacun son chemin.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dès lors que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dès lors que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oui. Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Oui, ça donne, passe le message à ton voisin. Oui, ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Oui, ça donne, passe le message à ton voisin. Oui, ça donne, passe le message à ton voisin.
Voilà, donc vous êtes sur CFM Radio 90.2 et vous écoutez L'Heure du Carillon, une émission proposée mensuellement par quelques chrétiens du Villefranchois. Alors nous sommes dans la période des vacances, on a évoqué, mais là pour l'instant nous faisons qu'un petit tour de table, on a évoqué divers aspects entre l'accueil de famille, la proposition qui est faite, un été plus spirituel ou alors divers chemins. Et maintenant justement on va prendre un chemin très particulier dont tout le monde parle, mais que chacun parcourt avec ce qu'il est et avec ce qu'il a. C'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et c'est Jean-Pierre qui nous en parle.
Oui, merci de votre invitation. C'est agréable de parler des chemins de Saint-Jacques dans notre secteur. C'est vrai que sur le plan historique, nous sommes gâtés. Le premier pèlerin connu de l'histoire, c'est Raymond II. Alors, ça remonte à plus de 1000 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais nous sommes sur un territoire de passage des pèlerins. Et en particulier, c'est lié à tout simplement à la géographie. Entre Le Puy et Compostelle, en passant par Saint-Jean-de-Port, eh ben, ils passaient par notre Rouergue. Soit ils allaient directement sur Massac, soit ils partaient sur Toulouse. Alors, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Là, c'est vrai que c'est à la fois un chemin de diversité, puisqu'on rencontre absolument tout le monde sur le chemin, des croyants, des incroyants, toutes les races, toutes les religions, toutes les nationalités. On compte 150 nationalités qui arrivent à Compostelle. C'est pour ça que c'est intéressant pour rester dans le thème, diversité, spiritualité. Le chemin a été éminemment divers, évidemment, et aussi les spirituels, parce que le chemin de Saint-Jacques, ce n'est pas qu'un chemin de randonnée, c'est bien sûr de la randonnée, mais c'est un chemin spirituel, et pour certains qui le souhaitent, bien entendu, un chemin religieux. Voilà les thèmes que je voudrais développer, mais j'amorce un petit peu l'idée, c'est-à-dire que quand on prend le chemin, c'est une rupture, et on se fait étranger, on se fait pérégrinus. Le mot initial de pèlerin, c'est l'étranger. Donc, on se convertit en étranger, ce qui est parfois un petit peu difficile. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on a le sac à dos, quand on sent la sueur un petit peu, quand on est un petit peu hirsute comme ça, on sent la différence. Et c'est bon d'avoir cette différence et de voir ce qui sont véritablement étrangers peuvent éprouver.
C'est vrai que notre vie est une marche à tous sur cette terre, et quel que soit le sens que l'on donne à cette marche, nous voulons toujours avancer. Et tu parlais du pèlerinage, parce que Saint-Jacques, on en parle comme pèlerinage, même si certains ne le font pas dans un but religieux chrétien, mais une quête de sens, un désir de se retrouver soi-même, tout un tas de choses qui peuvent exister. Sachez que les pèlerinages ont commencé par la Terre Sainte. Il existait des pèlerinages, bien sûr, dans la très, très ancien, dans d'autres religions, parce qu'on voulait marcher sur la trace des fondateurs et dans toutes les religions. Et pour les chrétiens, ça a commencé en Terre Sainte, où les gens voulaient aller vivre sur les lieux où le Christ avait vécu et était mort. Et comme certains ne pouvaient pas faire ces pèlerinages, sachez que nos chemins de croix dans les églises, ces 14 tableaux, viennent de là. C'était pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas aller en Terre Sainte de suivre le chemin du Christ. Bon, ça, c'est une manière de vivre. Mais il y a d'autres pèlerinages, il y a d'autres manières de vivre les choses, et peut-être... Alors, parce que vous me laissez causer là, mais peut-être vous pourriez prendre la parole pour interroger l'un ou l'autre autour de cette table par rapport à tout ce qui s'est dit. Alors à la fois, vacances d'un autre type, vacances différentes, il peut y avoir des vacances solidaires, il peut y avoir tout un tas de choses. Peut-être Georges, tu veux nous dire quelque chose ?
Moi je peux vous parler de mon témoignage, enfin je peux porter mon témoignage de l'action depuis 3 ans dans cette association. Alors, du point de vue du fond, sur la spiritualité, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais notamment un père musulman qui revenait de la prière un vendredi. Et alors il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, moi je suis athée, mais avant j'ai été catholique. Voilà, mais je suis complètement athée et je suis pas prêt de repartir dans aucun système religieux. Et alors, il m'a dit, comment c'est possible ça? Et donc, à partir de là, nous avons eu une discussion sur le fait, il pensait pas que si on avait une origine catholique, on pouvait quitter une religion. Pour lui, c'était inimaginable. Voilà. Donc, c'est une démarche, on a parler un peu, puis après, les événements finissent. Mais pour moi, c'est pas le fond. C'était finalement assez amical, la discussion que nous avons eue. Et c'était un peu sans fin. Donc, pour moi, si je vous parle de quelque chose qui est plus spirituel pour moi et qui est la recherche du fond, c'est la relation entre des personnes à revenus normaux avec des personnes qui n'ont pas de revenus. Et dans ces sociétés, dans cette société de pauvres, qui sont tous français, il y a des enfants. Et chez les enfants, il y a un cadre qui se construit à travers les vacances, qui est en dehors de l'école et en dehors de la banlieue et en dehors de leur cadre de vie. Et dans ces enfants, nous avons des futurs cadres de la nation. Hein? C'est très clair, nous avons des premiers de classe qui ne savent pas, mais on voit bien qu'ils sont ils savent tout. Ils savent tout à l'âge des filles en cinquième qui sont capables de vous parler de toute l'histoire de France comme si elles l'avaient vécu et tout ça. Donc on voit bien que nous sommes dans un endroit où il y a une diversité qui fait qu'elles s'expriment et qu'elles sont influentes. Ces personnes deviennent influentes sur les autres, sur la relation à l'apprentissage. Et avec des mères de famille qui n'ont qu'une idée en tête, c'est que leurs enfants réussissent. Et c'est cette vie que nous avons ensemble. Alors, nous avons les familles 15 jours, et puis après, on change, on fait 4 séjours dans l'été. Donc, on voit bien qu'on vit des choses intenses qui relèvent de fondements forts. L'autre point qui est important, et nous avons fait réaliser par des sociologues une enquête qualitative de notre travail, qui nous ont fait un petit film, donc qui n'est pas encore diffusé, mais qui sera diffusé, mais 7 minutes. Les témoignages sont clairs. Nous sommes qualifiés d'accueillants sans avis. Nous prenons les familles telles qu'elles sont, ils nous le disent, voilà, et nous sommes rares. Donc c'est une vraie question de ne pas avoir un point de vue sur la personne que l'on suppose étrangère. Parce que je dis bien qu'on suppose étrangère parce qu'ils sont tous français. Hein? Voilà. Hein? Mmh. Et ça, c'est une vraie question aussi de spiritualité. Hein?
Voilà. C'est vrai que ce que tu dis existe partout, en respectant chacun dans ce qu'il est. Mmh. C'est vrai que souvent, on a tendance à accueillir l'autre comme on a envie qu'il soit. Et il faut l'accueillir pour ce qu'il est, lui. Et voilà. Et les vacances, c'est un temps aussi qui nous permet ces rencontres vraies, ces rencontres sorties du cadre habituel du boulot, de la banlieue, de la maison et tout, pour rencontrer l'autre tel qu'il est, dans sa différence, mais aussi dans sa richesse. C'est ce qui se passe sur tous nos chemins. Et peut-être que c'est aussi une occasion, et peut-être on pourrait revenir sur Mona, de se rencontrer soi-même, tel que nous sommes et pas tel qu'on se rêve. Parce que le danger, c'est de se rencontrer tel qu'on se rêve. Mais en réalité, nous sommes. Et prendre du temps pour se rencontrer tel que nous sommes.
Oui, c'est vrai. Ce temps de solitude, de silence, de prière, simplement de silence, hein, d'être là, assise dans une église, entourée, je veux dire, par le beau quand même, hein, parce que pour moi c'est très important. Le beau qui est Dieu, que je rejoins, mais qui m'est donné aussi par la liturgie, par la Bible. Alors ça me permet, je ne fais pas un effort intellectuel à ce moment. Je laisse monter en moi, à cause de cet environnement, ce climat de silence et de prière, je laisse monter en moi une interrogation, enfin ce qui monte, hein, des fois c'est une interrogation par rapport à ma vie de relation bien sûr, je ne suis pas un être tout seul. Je vis en communauté, je vis en congrégation, je vis avec mes frères et sœurs que je rencontre tous les jours. Donc tout cela remonte à la surface à cause du silence et remonte dans ma vérité, dans ma réalité. C'est pas des illusions, quoi. Je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont masquées par ce qu'on peut vivre dans le quotidien. On peut porter des masques des fois. Là, c'est à nu. C'est comme un désert où on se retrouve. Ben, il y a rien. Tu es face à toi. Et alors voilà, il y a ça, c'est un appel à une conversion de ma manière d'être, donc à être vrai face à moi-même, face à Dieu.
Oui, Mona, tu fais part de ton expérience dans un monastère, et c'est vrai que je suis un peu attirée par ça. C'est une expérience que j'aimerais bien vivre, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler hors micro. Mais tu vois ce que tu disais, tu te retrouves avec toi-même dans la prière, le recueillement, et cela, je l'ai vécu aussi sur les chemins de Saint-Jacques, parce que le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin de rencontre avec les autres, avec tous les autres, des personnes très différentes, mais c'est aussi se retrouver avec soi-même. Et c'est une expérience que j'ai vécue très fort quand j'ai fait le chemin.
Oui, effectivement, ce sont des expériences rares et exceptionnelles. C'est des rencontres avec l'autre. Et c'est vrai que sur le tympan du portail de Conques, là, il y a le Christ en majesté, il y a les élus d'un côté, et dans les élus, il y a ceux qui ont, c'est ce que voyaient les pèlerins médiévaux, ils voyaient ceux qui avaient fait œuvre de miséricorde. Et l'œuvre de miséricorde, c'est tout simplement donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui sont assoiffés, accueillir l'étranger, j'y reviens. Et ça, c'est important parce qu'on le vit au quotidien sur le chemin. Comme le disait Georges tout à l'heure, sur le chemin, l'avantage, c'est que tout le monde a une espèce d'uniforme, l'uniforme de la randonnée. Alors, on ne sait pas s'il est cadre supérieur dans une entreprise du CAC 40 ou comptable dans la PME du coin. On ne sait pas on ne sait pas son origine, on ne sait pas sa nationalité, et ça c'est important. Et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Mona, c'est à la fois solitaire, parce que le chemin, on marche avec ses pieds, on prie avec ses pieds si je puis dire, mais également solidaire, parce qu'on rencontre les autres et c'est un lieu de rencontre. Le chemin est avant tout un lieu de rencontre, rencontre avec bien sûr la diversité, et la rencontre, comme dans l'œuvre de miséricorde, on rencontre notre prochain. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un rappel de Marc sur le premier commandement, c'est d'aimer son prochain, quel qu'il soit, il n'y a pas de sélectivité de ce côté-là. Et quand on aime son prochain, ben on l'accueille en toute simplicité. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs à Villefranche, dans notre association, où nous accueillons. On accueille le pèlerin de manière à échanger avec eux en toute simplicité, sans porter évidemment de jugement sur, en toute discrétion, c'est un échange vrai.
Oui, là-dessus, je voudrais parler moi de ma petite expérience. J'ai rencontré des gens avec qui on a marché, mais avec qui aussi on s'est rencontré pour manger, et on a beaucoup discuté, et finalement ils sont même revenus me voir à Villefranche de Rouergue. Donc c'est pour vous dire qu'on fait des rencontres, et ils étaient de Paris, ils m'ont proposé si j'allais à Paris une chambre pour loger, et même parce que là, c'était un cadre supérieur. Il avait un petit bateau. Il voulait faire. Il m'a proposé de venir sur son bateau faire le tour du Péloponnèse. Donc, vous voyez, on fait des rencontres curieuses. Aussi, j'ai rencontré des gens du Nord. J'avais passé 5 ans et j'avais plaisir à discuter avec eux. Des gens très 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 simples. Avec qui on devait se revoir et puis on n'a pas pu. Mais rencontrer des hommes dans la vérité de leur culture, parce qu'on est très différents, on a des formations, des métiers très différents, c'est très enrichissant.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que en écoutant tout cela, on s'aperçoit que vraiment, bon, on a parlé de la rencontre, tous, de la rencontre de l'autre tel qu'il est, de la rencontre sur le chemin, de la rencontre dans l'accueil, de la rencontre personnelle que l'on peut faire soi-même. Ce sont des éléments essentiel pour vivre autrement. C'est vrai que quand on est dans la vie quotidienne de tous les jours, hors temps des vacances, si on se croise dans la rue, bonjour, comment vas-tu? Ouais, ça va. Et chacun continue son chemin parce que ça va. Où ça commence à permettre une rencontre, c'est quand l'autre te dit, mais écoute, ça va pas trop bien. Donc je dois m'arrêter pour l'écouter. Je dois m'arrêter pour marcher un peu avec lui. Quel qu'il soit. Et c'est vrai que le quotidien nous empêche parfois de vivre ces moments-là et cet échange, et le temps des vacances, qui est un temps autre, peut favoriser ce genre d'échange et cheminer avec l'autre dans, où il va et vers... Tu veux dire quelque chose ?
Oui, justement, tu parles des vacances, un temps de changement, un temps pour se poser. Et c'est vrai qu'on est tellement confronté à des crises, à des mutations, à des changements. On est tellement bousculé. Et je crois que c'est vital qu'on s'accorde ces moments où on se pose, où on réfléchit, où on fait le point, où on avec les autres, pas seul, parce que seul, oui, mais avec les autres aussi, pour essayer dans ce tumulte de trouver une boussole, de trouver un sens aux événements.
Vous voyez, j'avais, la semaine dernière, dans le journal La Croix, il y avait justement toute une page sur religion, spiritualité, un été spirituel, une manière de vivre les vacances. Alors, ça peut toucher le côté chrétien, catho, religieux, mais ça peut toucher aussi tous les hommes. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il y a 7 points. Se retrouver. Alors là, on est tous d'accord, se retrouver. Construire sa vie. Important aussi. Aider les autres. Alors, là, on revient ensuite dans une dimension plus chrétienne, plus religieuse. Prier dans la nature. Trouver Dieu dans l'art et la liturgie, ce que tu disais, Mona. Hein? Voilà. Et puis, il y a d'autres moyens de refaire le point sur sa vie. Et il y avait un point qui était, là, de dire, souder son couple et sa famille. Vivre autrement avec son épouse, vivre autrement avec ses enfants. Et le dernier point, c'était se former, c'est-à-dire s'ouvrir aussi à d'autres cultures, à d'autres réalités. Voilà, un peu tout cela, c'est le sens que l'on peut donner à nos vacances, et pas simplement faire la grasse matinée, même si on en a besoin de temps en temps, mais avoir un projet de vacances aussi. Ça peut être celui du repos, mais ça peut aller au-delà.
Moi, je voudrais ajouter, les vacances, pour moi, c'est aussi un temps de lecture, pour comprendre les fureurs du monde. Parce que ce qui se passe quand même au Moyen-Orient, au Sahara, un peu partout, on vit une mutation qui nous interroge, on se dit, mais où on va ? Alors, quand on a dépassé les 70 ans, on risque pas grand-chose, mais on se fait du souci quelquefois pour nos enfants en se disant « Notre monde devient un peu fou, hein, c'est quand même inquiétant ». Alors, il y en a qui vont jusqu'à Tunis ou à Kiev pour voir sur le terrain un petit peu comment les gens réagissent. Parce que les guides touristiques... ils sont axés sur le patrimoine. Moi, je pense que quand on va dans un bistrot, qu'il soit branché ou fauché, on rencontre des gens qui vous disent leurs problèmes de vie au quotidien. Et ça, c'est intéressant.
Où on va ? Les pèlerins de Saint-Jacques vont vers Compostelle et on écoute maintenant le chant Outria qui nous amène jusqu'à Compostelle.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons. Jour après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle.
Écoutez l'heure du carillon sur CFM Radio 90.2. Aujourd'hui, le thème, c'est vacances, diversité et spiritualité. Ce que j'apprécie, c'est la qualité des, témoignages que l'on a entendus. Et notamment, Georges est quelqu'un de très différent de d'autres personnes qui sont invitées. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit là parce que on peut, en parlant de vacances, parler aussi de la spiritualité avec un autre œil. C'est-à-dire qu'il a démarré assez fort en nous disant que la spiritualité, c'était pas leur fort. Et j'ai bien aimé cela parce que ça veut dire que l'être humain, eh bien, il a le droit de penser ce qu'il veut. Et puis, en pensant autrement, il a aussi quelque chose à nous apprendre et à dire. Alors, je vais lui céder la parole, mais je tenais quand même à faire remarquer que ce qui se peut maintenant, avec l'émission précédente pour les écoles, où il y avait des responsables de toutes les écoles, des lycées, d'écoles privées et d'écoles laïques. Ici, nous avons aussi la même richesse de diversité. Ça me fait plaisir et ça nous permet de mieux nous comprendre et d'avancer plus loin qu'on aurait avancé si on était chacun dans notre petit coin. Alors Georges, tu as la parole. Oui.
Merci pour cette introduction. Alors moi, je peux vous parler de qui nous sommes. Alors effectivement, je crois que nous sommes tous très différents. À Vacances et Familles, nous éprouvons du plaisir à être ensemble, ensemble entre bénévoles et ensemble avec les familles, et nous faisons fonctionner notre chemin intellectuel. Parce que nous sommes ensemble, voilà. Et c'est un dispositif, un peu, voilà. Alors, comment nous fonctionnons ? Nous sommes une association qui a deux objectifs. Faire partir des familles à revenus modestes de l'Aveyron ailleurs et accueillir des familles d'autres départements de France sur Midi-Pyrénées. Sur Midi-Pyrénées, on va accueillir à peu près 125 familles cet été-là. Et donc, pour ça, nous sommes un réseau d'associations avec des échanges de familles et tout ça. Et nous sommes un réseau d'associations indépendantes, mais solidaires et fédérées. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut quand même un certain... Voilà. Eh bien, pour trouver... Comme nous nous intéressons à des familles qui ont des revenus modestes, ils ont des aides CAF. Mais intellectuellement, ils ne savent pas faire les démarches. Il faut voir comment la société française est compliquée. Il y a des gens qui ont des droits, et ces gens qui ont des droits, ils ne savent pas qu'ils ont des droits, et ils ne savent pas comment y accéder. Hein? On croit que c'est facile. Il y a quand même 43% des personnes qui ne partent pas en vacances. Hein? Et puis on se différencie... Et nous, on travaille sur une partie de ces 43%, c'est-à-dire les plus pauvres, mais encore, il y a une tranche qui n'a tellement pas de revenus, qui n'y accède pas et pour qui on n'est pas capable de trouver une solution, sans compter les réfugiés. Donc, nous travaillons à rechercher des hébergements à prix très bas. Alors, on les identifie. Bon, c'est des propriétaires. Nous ne sommes propriétaires de rien. Donc, on se fait mettre à disposition des maisons, moyennant un loyer modique. Et à partir de là, on est capable, avec le réseau de bénévoles, d'aménager une maison complète. On l'aménage en 15 jours. On aménage la maison. On déménage tout. On a un stock d'équipements qu'on nous a donné. Donc, voilà, on le fait. Et puis, on accueille pendant 2 mois des familles. Et puis, après, il faut déménager, recommencer. Et puis, voilà, quoi. Hein. C'est notre métier de bénévole. Pour donner accès, il faut à un moment donné qu'on porte une part de l'aide. Voilà. Après, la question, quand les familles arrivent, elles sont... Nous travaillons beaucoup sur la notion de parentalité, c'est-à-dire d'exercice de la relation entre les familles. Et là, tout à l'heure, vous avez dit la relation aux enfants. Pour nous, c'est une priorité, c'est-à-dire que nous ne faisons pas du cocooning, nous sommes dans une relation de parentalité, de force de caractère des parents vis-à-vis des enfants, et réciproquement, et où tout le monde grandit. Mais les rencontres sont, au bout d'un moment, il y a des êtres exceptionnels qui apparaissent dans tout ça. Moi, je peux parler d'une famille bulgare, lui, il a travaillé en Sibérie à couper des arbres. Il sait faire tout ça, des grands, des très grands arbres, comme il y a partout, comme on ne peut pas imaginer. puis il a fait chauffeur de tracteur en Pologne, puis il a travaillé en Roumanie, en Grèce, etc. Il parle 7 langues et il est plaquiste à Toulouse. Voilà. Hein? Donc, mais après, on peut échanger. Hein? On échange, il connaît la moitié de l'Asie. Hein? Voilà. Donc, où il a travaillé. Mais il a travaillé, je dis, ce qu'il fait. Hein? Et pour lui, le projet, c'est que ses enfants réussissent. C'est vraiment un gars intelligent qui a fui la Bulgarie parce qu'il n'y avait pas de travail. Hein? Donc, il a fait ses métiers pour que sa famille vive. Hein, voilà. Donc vous voyez un peu les déchirements que ça suppose, les relations avec sa femme, etc. Donc on discute de tout ça et on rentre dans une compréhension des relations sociales qui sont imposées à des Européens. Hein, voilà.
Je comprends. Oui, vas-y Bernard.
Je voulais te demander, quand ils sont à Villefranche, hein, ils passent une semaine, 15 jours, je ne sais jours, pas, hein. 15 jours, est-ce que vous les aidez à découvrir les lieux
Nous on les aide à découvrir les lieux, avec les moyens que nous avons et des choses simples. Et puis des choses simples, on vérifie. La première visite, nous la faisons à Compoliba, au ZIG de Compoliba, ou au pont. Voilà, c'est... 70% des personnes que nous avons là n'ont jamais autant marché. Hein? Voilà, c'est faute. Donc nous ne sommes pas à Compostelle, là. Hein? Hein?
Oui. Hein? Mais tu peux leur faire découvrir les chemins de Compostelle qui passent par Villefranche.
Oui. Mais après, on prend un bus pour aller... deux jours après, on prend un bus, on va découvrir le viaduc de Millau. Et on prend une photo de chaque famille devant le viaduc et on leur donne, ou plusieurs photos on leur donne. Et si vous voulez, c'est un souvenir de famille magique. Alors moi, je lui disais, ça c'est sûrement, maintenant c'est plus à la mode, on doit pouvoir arrêter. Non, mais ces familles n'avaient jamais cette possibilité.
Voilà. Donc merci Georges pour ce témoignage. C'est vrai qu'on s'aperçoit de toute façon que ce qui fait vivre tout homme, sans considération de spiritualité, de religion et tout, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Et les vacances doivent nous permettre justement un plus d'amour dans nos vies, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de l'environnement. Tu voulais dire quelque chose, Michel?
Oui, moi je peux témoigner au niveau des vacances, puisque j'ai créé et tenu une discothèque pendant 20 ans, discothèque où il y avait 400, on recevait beaucoup de monde. Et donc mes vacances, c'était de les donner aux autres, de les gérer pour les autres. Bon, moi je trouve que ce qui a été dit là est très intéressant. Personnellement, je veux dire qu'il m'est nécessaire à moi aussi de me replonger dans le silence et puis dans les interrogations que l'on a tous. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Que voulons-nous? Quelle est notre mission sur cette terre, si on considère qu'on en a une? Bon, là, c'est tout un débat, peut-être, qui sort du thème d'aujourd'hui. Mais pour ma part, il m'est indispensable, mais alors vraiment indispensable, de me retrouver dans des milieux religieux, puisque j'ai été élevé catholique et je le suis resté, après avoir réalisé de nombreuses émissions radio et beaucoup de recherches, avoir fait beaucoup de recherches. Je suis revenu au conseil d'ailleurs d'un lama, à ma religion qui m'avait été donnée en étant petit, et j'y trouve beaucoup de réconfort, j'y trouve une restructuration, une force intérieure. Alors tout n'est pas parfait, mais je crois qu'il est indispensable pendant les vacances de les utiliser généreusement, comme sait faire Georges et vous tous là, et en même temps pour soi-même. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire, on pourrait développer encore, mais il faut laisser parler tout le monde.
Quand tu tenais ta discothèque, les rapports avec les jeunes, est-ce que c'est facile? Est-ce que, parce qu'il y avait des gens qui buvaient peut-être un peu trop et qui étaient accidentés sur la route, est-ce que vous laissez rentrer tout le monde? Comment ça se passait?
Mais moi, il y avait une forte retenue à l'entrée. Là, il y avait un tri qui se faisait obligatoirement. Les personnes qui arrivaient, qui avaient bu, ne le prenaient pas. Et à l'intérieur, moi, je faisais tout pour qu'ils ne boivent pas trop. Par contre, je faisais tout pour que tout le monde soit respecté, notamment les filles. Et il y avait des mamans qui accompagnaient leurs filles parce qu'elles savaient que ça se passerait bien. C'est ce qui faisait aussi qu'un endroit qui n'était pas très bien indiqué, j'avais beaucoup de monde. Et cet endroit avait été choisi parce que moi je suis d'une famille de commerçants, on était quatre, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors j'avais pas choisi le meilleur des endroits. Et après il s'agit de s'organiser pour que les choses se passent pour le mieux. Mais les rapports avec les jeunes, si on sait les écouter, toute personne est pareille, jeune ou pas jeune, si on sait s'écouter, si on sait se comprendre, si on a le désir d'apporter à l'autre et de recevoir de lui, eh bien on avance et on se comprend. Et si quelqu'un qui souffre ou qui est désagréable, on essaie de comprendre que derrière ça il y a une souffrance, eh bien on l'embête pas, on le laisse, ou alors on va, si l'on peut, à sa rencontre, presque même parfois à son secours. Et tout ça, ça se fait au fil de la conversation, du temps et de la réflexion. Voilà. Non, mais ça se passait bien.
Autour de cette table, nous sommes quand même quelques privilégiés parce que tous, nous avons l'occasion ou d'accueillir ou de vivre des moments différents et tout cela. Et il y a des gens pour qui cela n'est pas possible, comme tu le disais. Il y en a qui sont même hors des circuits les plus simples pour aider les gens. Et il y avait, vous savez, quand il y avait ce conte Émilie Joly, et la dernière phrase de ce conte disait: faites que le rêve dévore votre vie pour que la vie ne dévore pas votre rêve. Et je crois qu'il y a toujours moyen de rêver et d'aider les gens à rêver. Et je crois que c'est vrai que peut-être même ceux qui restent, il faudrait leur offrir, ceux qui sont les plus pauvres, les moins, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les circuits, il faudrait peut-être leur proposer un peu de rêve. Alors si vous voulez, pour un peu de rêve, maintenant on va faire de l'exotisme, on va écouter une chanson des îles. Voilà, des îles du soleil.
Y a pas d'île sans ukulélé, heureusement d'homme c'est enjoué. Y'a pas d'île sans vaïnée, les sirènes sont arrivées. Sans île, pas de Méditerranée, pas de banc sous les palmiers, pas de trinquette, pas de tipouche à boire pour jeter l'éponge, pas de sentier à marcher, pas de fort d'où regarder. L'Alpe blanche au nord se dressait, l'Alpe blanche au nord se dressait. Pas de fleurs d'orange pour parfumer les dames en noir égarées. Pas de sous-marin, pas de bar grillé, pas de loup de mer à faire parler. Pas de petit duc chantant la nuit, pas de puffin au vol infini, pas de forêt de chênes verts, pas d'olivier plus que centenaire. Dans les Dom-Tom, il y a Tahiti, paraît que c'est le paradis, paraît que c'est le paradis, le paradis. Mais la plus proche des îles lointaines, c'est Port-Croix à 2 heures à peine.
Voilà, donc on va arriver à la fin de l'émission et on va finir par chacun qui se sent exprimé de nos invités pour qu'ils nous disent un peu une parole conclusive sur ce qu'ils ont vécu. Alors on commence par Jean-Pierre.
Oui, on a entendu tout à l'heure le chant des moines de Conques, et c'est vrai que quand on l'entend, quand le pèlerin qui transite, et il y en a des milliers qui transitent dans l'abbaye, qu'ils entendent ce chant des moines, on est saisi par quand même une émotion à la fois artistique et, j'allais dire, spirituelle, métaphysique. Je ne sais pas de quel ordre on peut la définir, mais en tout cas, il y a de l'émotion face aux vitraux de Soulages. Et ce temps d'émotion, ce temps de pèlerinage, on peut le revivre puisque le 25 juillet, le jour de la Saint-Jacques, il y a une rando-pélée qui se situe à Villefranche, entre Villefranche et Artigues. Artigues d'ailleurs, où la fête votive, c'est le jour de la Saint-Jacques. Et cette rando-pélée, c'est à la fois une vraie rando et un vrai pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a 20 km de rando, mais il y a également un vrai pèlerinage puisqu'il y a à la fois un thème spirituel. Et il y a aussi des pauses tout simplement repos, des pauses boissons, des pauses culturelles et des pauses religieuses, bien sûr. Et c'est vrai que tout ça nous ramène au ce qu'est le chemin, c'est-à-dire que c'est un chemin qui a du sens, hein, le chemin au sens propre. Hein. Il a du sens, on va dans une direction, mais il a du sens parce qu'il a de la signification. Et c'est vrai que le religieux n'est pas loin de la métaphysique et n'est pas loin du spirituel. De toute façon, c'est à la fois un voyage. C'est à la fois un voyage personnel, mais c'est à la fois un voyage spirituel. Je conclurai hein, en disant que le temps de l'émission est très court. Vous pouvez peut-être nous rejoindre si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur notre site internet, qui s'appelle tout simplement www.vercompostel.fr ou sur Facebook. En tout cas, merci de votre invitation et merci de votre écoute.
Merci à toi. Maintenant, Mona, tu nous dis un petit mot, s'il te plaît.
Oui, moi j'aimerais parler de deux choses. C'est le qu'est-ce qui m'aide. Alors, trois choses m'aident. D'abord, la liturgie, la prière des moines à laquelle je m'associe, toute cette beauté de la liturgie. Une deuxième chose qui est très essentielle, que je continue tout au long de l'année, c'est de scruter la Bible. Pour moi, c'est un trésor qui me renvoie. Je suis à la suite d'un peuple, avec un peuple qui marche. Et la troisième chose, c'est un accompagnement que j'ai la joie et cette grâce d'avoir mon père spirituel dans ce lieu. Donc, qui m'accompagne, mais qui m'accompagne simplement par un partage. Hein. C'est pas, on fait pas de la grande des accompagnements extraordinaires. Hein. C'est simplement, je partage, il partage aussi ce que nous vivons. Et la deuxième chose que j'aimerais, c'est le pourquoi de dans un monastère. Pour moi, c'est le lieu qui, je dirais, qui fait, comment dire, c'est là où je trouve une unité en moi, de l'Occident et de l'Orient. Je trouve que dans les monastères, il y a quelque chose de l'Orient que je retrouve et qui fait que je me sens bien là-dedans et que je peux me retrouver moi-même. Voilà.
Merci Mona. Maintenant la parole à Georges.
Oui, alors je peux parler de mon engagement. Moi, je retire mon engagement de ma vie, de toute ma vie, de tout petit. Hein, je ne renie rien de mon passé. Mon engagement d'aujourd'hui, il est construit sur ce qui m'ont fait. Alors, je me définis un peu comme un rêveur, et d'ailleurs, mon institutrice me l'avait déjà souligné de bonne heure, mais effectivement, je suis dans le rêve d'un monde de meilleur, quoi, et je suis en permanence, et voilà. Et ça, c'est profond. Et je veux dire que c'est ce qu'on partage avec d'autres qui, quelquefois, effectivement, n'ont pas la capacité à rêver ou ne s'imaginent pas qu'ils peuvent rêver. Hein, puisque finalement, faire une démarche, c'est commencer à rêver que c'est possible. C'est possible de partir en vacances, alors que c'est interdit, on se l'est interdit depuis 20 ans. Hein, parce que c'est ça, le pas de temps que nous avons avec les familles. Donc, voilà, c'est un engagement profond sur des valeurs, et c'est un engagement dans le plaisir. C'est-à-dire que moi, je suis heureux d'être là, et je le dis, et nous sommes une équipe de bénévoles qui fonctionnons comme ça, on n'envisagerait pas d'être triste de faire ça.
Merci beaucoup.
Donc, je vais conclure l'émission par quelques annonces, bien pour ceux qui ne peuvent pas partir à la mer, à la montagne ou ailleurs, qui restent sur Villefranche ou dans les environs. Il y a beaucoup de belles choses, plein d'animations, dont le 16 août, la fête paroissiale à Villefranche sur la place du Saint-Jean, qui est une très très belle journée. Ensuite, vous avez à Villeneuve, le 19 juillet, la fête médiévale. Donc, je vous encourage vivement à y participer. Enfin, entre autres, il y a toutes ces choses. Et puis, n'oubliez pas, le 25 juillet, j'y tiens particulièrement, à la rando Pelée. Voilà.
Si nous savions prendre le temps d'écouter la respiration des êtres et le murmure des choses, alors nous saurions ce que vivre veut dire. Et les vacances, c'est vivre tout cela, respiration des êtres et murmure des choses. Merci à Jean-Pierre pour les chemins de Saint-Jacques, à Georges pour Vacances Famille, à Mona pour son expérience de vie religieuse. On se retrouve en septembre.
Bonne semaine à tous et vous étiez sur CFM Radio, l'heure du carillon. Voilà.
Bonne journée, bon soleil à tous.
90.2.
Ça te va ? Thank you.
Thank you.